France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Bernard Cavana, je suis né à Nogent-sur-Marne le 6 novembre 1951 et j'essaie de m'inscrire dans cette grande aventure de la musique écrite.
Il y a deux choses dont j'aimerais suivre le fil avec vous maintenant, Bernard Cavana. C'est d'abord ce compagnonnage avec Noémie Schindler. Vous l'avez rencontré, vous aviez, je crois, 36 ans, quelque chose comme ça.
Oui.
À la même époque où vous deveniez directeur de l'École nationale de musique de Gennevilliers.
Voilà. Oui. C'est peut-être l'école où je fais les plus belles rencontres dans ma vie. À la fois avec la ville, avec les maires aussi successifs, mais aussi avec les professeurs et les étudiants qui sont encore mes amis et parmi les amis très proches. Et je me souviens très bien de la rencontre avec Noémie. À l'époque, je travaillais pour le cinéma,
oui,
pour Pierre-Henri Salfati, mais aussi Alain Fleischer. Et j'avais écrit déjà pour Noémie, alors qu'elle était encore étudiante, mais elle avait une manière comme ça d'interpréter, d'entrer dans le son, de l'archet, c'était extrêmement senti et vivant. J'ai su assez vite que sa vie se conjuguait avec des drames terribles, comme la disparition de son père dans une promenade en montagne, où son père est tombé devant elle dans un précipice parce qu'il y avait une barrière qui ne tenait pas. Elle avait à peine 9 ans. Ça construit bien sûr très très différemment la personne. Et Noémie est une personne construite vraiment, un ovni par rapport à l'être humain. Et lorsqu'elle aborde la musique aussi, c'est une manière de jouer, de comprendre, de sentir les œuvres. Si j'avais pas rencontré Noémie, je serais pas devant vous, hein, parce que je crois que j'aurais bifurqué dans la musique de film ou comme musicien de théâtre, parce que au moins les rapports étaient avec les producteurs étaient des vrais rapports. On convenait ou on ne convenait pas, on changeait pas. C'était pas ce flot artistique dans lequel on est dans ce microcosme de la musique contemporaine et qui peut s'avérer très très usant à la longue. Mais Noémie m'a remis dans le rail. C'était une période où je doutais beaucoup de l'opéra sur lequel j'étais.
Et la confession impudique.
La confession impudique, et elle m'a permis de mener à terme ce projet.
Vous avez écrit toutes vos pièces pour violon, pour,
oui,
Noémie Schindler.
Oui.
Oui.
Et pour éviter qu'on les reprenne, Scordatura est écrit pour 4 violons et des scordatos. Comme ça, il y a que Noémie.
Il y a quel qui peut le faire.
Voilà.
Quelle belle,
Noémie
belle hommage.
Noémie me dit que non, me dit c'est facile, c'est, ouais, tout est facile pour elle. Et puis, il y a eu ce merveilleux trio qu'on a créé avec Pascal Conté et Christophe Roy. Mais ils ne se sont pas entendus, c'est dommage.
Ah.
Il a duré 2 ou 3 ans, mais c'était un trio que j'aimais beaucoup. Et puis, j'ai fait les adaptations de Schubert aussi, les transcriptions de Lieder de Schubert pour cette formation. Un opéra pour enfants aussi avec cette formation. Le double concerto avec Emmanuel Bertrand.
Violon, violoncelle et accordéon. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette formation du trio?
Je trouve qu'il y a ces deux instruments très nobles, chargés de répertoire. Et cet instrument qui, dans notre imagerie, est un instrument d'évoluer la musique populaire, un peu ringard, comme on l'imagine. L'accordéon, c'est plus fait pour la chanson, pour le musette. Mais dans le Lied de Schubert, il y a autant de musique populaire que de formes savantes. Et donc j'aimais bien cette idée de conjuguer ces deux mondes. Et aussi la partie de piano est très belle. Et là, on pouvait s'appuyer justement pour essayer de le transcrire pour cet instrument, accordéon. Et je trouve qu'il y avait un mélange qui était parfait. Et puis en même temps, on le restituait dans une formation de chambre. Et la voix, d'ailleurs, elle se positionne à côté des musiciens et ils forment un quatuor magnifique. C'est pas la voix devant le piano. Je crois que ça aurait séduit Schubert.
Schubert, il est cher à votre cœur, hein, je crois, ce compositeur.
Schubert, oui, c'est certainement les premières musiques que j'ai entendues, et les impromptus, les sonates. Et puis je les ai jouées aussi, quoi. Du moins, je les ai massacré à ma façon. J'aime aussi ce compositeur qui a été Schubert tout de suite. Et il me place sa condition de pauvre humain dans cette cosmologie à une place touchante, attendrissante. C'est une mélancolie, mais pas d'effet de manche, pas listien. Oui, j'ai beaucoup d'affinité avec ce compositeur.
Il y a d'autres compositeurs du passé qui traversent votre musique. Par exemple, je pense à Bach et Machaut dans le Shanghai Concerto.
Oui, Machaut, oui, que j'ai découvert à la fac de Paris 8. Il y en a un superbe professeur de musique ancienne. C'est des musiques qu'on méprisait. Et pour moi, la musique commençait avec Monteverdi, mais pas avant. Et là, j'ai découvert tout un univers. Et j'allais à la Bibliothèque nationale travailler sur le manuscrit de Montpellier, Roxette, et Machaut, bien sûr. Et puis je fréquentais des musiciens comme Alain Zepfel, Fabre Garus ou Rachid Safir qui travaillaient beaucoup sur ce répertoire-là. Et les Machauts que j'ai mis sont des Machauts apocryphes. Je me suis amusé avec ça.
C'est quoi alors cette référence à des compositeurs du passé? Vous les traitez comme des objets sonores?
Oui,
comme des,
oui. La dernière expérience, c'est une expérience un peu triste. J'imagine la 9e symphonie comme si elle était à l'état de ruine et qu'on se baladait dans un champ archéologique sonore, mais imaginaire. Alors de temps en temps, il y a un élément qu'on reconnaît très bien et d'autres, ils sont dilués avec le sable, avec des fois des objets usuels comme une bouteille de coca qui est tombée par terre ou alors une rampe d'escalier pour personne à mobilité réduite, à côté du temple d'Apollon. Voilà, il y a un mélange de choses. Oui, parce que j'ai l'impression que toute notre grande aventure de musique écrite, notation de Saint-Gall jusqu'à Philidée, qui demande tellement d'attention de la part de l'auditeur, de la patience, de s'approprier l'œuvre, on n'est plus dans cette époque-là. Avec la mondialisation, avec les échanges, l'immédiateté, l'efficacité, et bien, tout ça qui va disparaître, quoi. Qui écoutera une sonate de Haydn, une sonate violon-piano de Beethoven, je ne sais pas. L'opus 132 qui est très difficile à apprendre. Je me demande qui va écouter une symphonie de Bruckner.
Je croyais que vous étiez un agité, mais vous êtes aussi un désespéré, Bernard Cavana.
Oui, vous savez, c'est toujours des successions de vagues. Là, je suis invité au conservatoire de Cergy-Pontoise et je travaille avec des étudiants qui travaillent aussi sur mes pièces. Et je me dis, tiens, ça existe encore, il y en a encore. Et des jeunes en plus qui ont cette passion.
Donc pas de désespoir.
Là, je ne suis pas du tout désespéré.
Les échos à la musique de Beethoven à sa neuvième, auquel vous faisiez allusion, c'est Gig Bagatelle. Oui. C'est une pièce qui a été créée il y a 4 ans, je crois.
Ou peut-être plus. J'étais en résidence avec l'orchestre de Picardie, mais c'est aussi une commande du Gramme. Mmh. Et c'était Damien Pousset. Et Damien Pousset me propose une pièce avec orchestre symphonique, un petit symphonique, et un chœur de smartphone. Je déteste cet instrument. Justement, c'est l'instrument de surveiller et punir. C'est le traceur GPS. Et puis en plus, c'est dérisoire comme son. Mais ils avaient trouvé des applications pour moduler le son, pour le faire jouer par des étudiants. Et je me suis dit, peut-être que c'est un bon coup de pied pour essayer de partir ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et heureusement, parce que ça m'a plu finalement, ça m'a coûté, mais ça m'a plu. Avec cette idée d'instrument dérisoire qu'est le smartphone, qu'on manie, qu'on met en bas, en haut, qu'on penche, et pour essayer de rivaliser avec le premier violon, qui lui a travaillé pendant 20 ans son instrument, et passé des concours, voilà. C'est l'objet dérisoire, et puis l'objet magnifique.
Les smartphones, c'est une expérience intéressante pour vous, qui n'êtes pas un geek. J'imagine que Geek Bagatelle, ça vient de ça.
Oui, pas du tout.
Mais en revanche, Bernard Cavana, vous avez une prédilection pour les instruments rares et les instruments qu'on n'associe pas à la musique classique et à la musique contemporaine, à savoir l'orgue de Barbarie, les cornemuses, la perceuse dans les percussions.
À percussion. Oui. Métabo, de Marc Métabo.
Oui.
Les cordes de chasse.
Les cordes de chasse.
Trompe de chasse, cymbalum, accordéon, bandoneon.
Et ça depuis toujours. Ça traverse vraiment votre
musique. Parce que finalement, la pièce Yo de 79, le chœur utilise des tuyaux d'orgue. J'avais essayé de récupérer. Et les premières harmonies qu'on entend, ce sont les choristes qui soufflent dans des tuyaux d'orgue, des tuyaux de flûte ou bourdon. Voilà. Et un clavicorde aussi.
Oui.
On ouvre la pièce avec un clavicorde. Le problème, c'est à quelle matière sonore on va s'adresser. Est-ce qu'on doit reprendre l'information qui était celle de Haydn, Mozart, même si elle est étoffée par la suite, la formation du Pierrot lunaire. On n'arrête pas d'écrire. Alors, il y a des gens qui écrivent magnifiquement pour cette formation. Mais moi, j'ai l'impression que tout est écrit. Donc, essayer de trouver des matières, d'autres objets qui puissent entrer en opposition.
En collision.
Avec les autres et puis de dégager d'autres horizons, d'autres prospections. La cornemuse qui ne joue qu'à 100 décibels ou 97 décibels. Voilà, comme elle s'articule avec d'autres instruments. Le cor de chasse qui n'utilise qu'un certain nombre d'harmoniques, comment on dialogue. Et l'orgue de Barbarie, c'est un instrument magnifique. Mais alors moi, je ne pensais pas qu'il y avait des logiciels qui perçaient les cartons. Et lorsque Pierre Charial m'a dit qu'il y avait ça, alors là, j'ai été encore plus loin dans des choses impossibles.
Donc, orgue de Barbarie, cymbalum.
Ah, dans l'agité du bocal. Oui, il y a deux cornemuses, orgue de Barbarie, un pupitre de percussion imposant, mais avec des instruments fabriqués comme des claviers de bouteille. Accordéon, bien sûr, deux contrebasses.
Oui.
J'aime bien aussi déséquilibrer. Ce que je donne souvent comme image, c'est un sculpteur, par exemple, lorsqu'il prend une pièce de bois qui a déjà des nœuds, qui a déjà une courbe, peut-être même des branches, il est obligé de considérer cette pièce-là. Il taille un cube dedans, mais ça ne sera pas intéressant. Si il épouse la forme qui lui est donnée, ça va l'amener à trouver d'autres cheminements possibles, peut-être.
Pour faire avec. Oui.
Voilà. Alors bien sûr, pour les reprises des pièces, c'est pas très économique, c'est pas parce qu'elles sont pas normées, mais ça permet d'aller dans d'autres horizons.
C'est tout un phénomène. veux commettre l'irréparable. Il y tient, les sorcières vont le rendre fou. Il est venu les taquiner, elles ne le lâcheront plus. Ténia, des écrous, oh tétard, tu vas bouffer la madame.
France Musique, les grands entretiens de Bernard Cavana.
En fait, l'histoire de la JT du Bocal, c'est une vieille histoire.
Ah oui.
En 84, j'avais eu envie de mettre ce texte en musique, parce que je le trouvais fort, c'était la langue qui me plaisait.
Alors, rappeler le titre de ce pamphlet, hein. Il s'appelle « À la JT du Bocal », pamphlet de Céline.
Alors, c'est un pamphlet qu'il a écrit après avoir reçu un extrait d'un article de Sartre, à l'encontre de Céline, où il disait que s'il avait collaboré avec les Allemands, c'est qu'il était payé. Peut-être qu'il a pu se servir, notamment pour un voyage à Berlin, de ses amitiés allemandes pour aller planquer son or au Danemark. Et ça valait condamnation à mort, hein. C'est pas simplement à cette époque-là, on fusillait jusqu'en 48 assez allègrement. Donc, et puis Sartre, le personnage, est pas tout rose non plus, hein, non. Il suffit de lire une si douce collaboration. Mais bon, c'est pas les excès inadmissibles et génocidaires de Céline, qui, bien sûr, ce sera un autre registre. Mais il reçoit ce texte au Danemark, je crois qu'il est en prison, il mûrit longtemps sa réponse, je pense qu'il a mis un an avant de la mûrir, et il publie ce pamphlet, d'abord dans un bouquin qui s'appelait le Gala des Vaches. Et ce texte est passé quasiment inaperçu. Il y a eu une édition à Genève aussi, mais sous le manteau, hein, c'était une petite édition, ou en Belgique. Mais ce texte n'a pas eu d'impact au début. Puis de toute façon, Céline était l'auteur maudit, donc on n'en parlait plus du tout.
Ça vous intéresse justement ça, Bernard Cavana, les failles dans la cervelle et dans le cœur humain?
Oui, c'est une question.
Parce que Céline, c'est l'incarnation de cette faille. Il était antisémite.
Cette faille, totalement. Mais c'est important de connaître ces dérives.
Oui.
C'est important de mettre les deux mains dans la boue. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce texte de Céline. C'est montrer à la fois sa verve, mais aussi une sorte d'empathie, une sorte de bête qui est acculée, qui est par terre. Mais qui souffre, parce que lui aussi, même s'il a écrit des saloperies, il a le droit de souffrir, et de savoir si on peut avoir une empathie vis-à-vis de cette personne. Et moi, je l'ai, cette empathie. Voilà. Moi, j'ai aussi cette réflexion, car ça n'a rien à voir, mais quelle aurait été mon attitude à l'époque? Je crois que tout le monde se pose cette discussion. Ce sont les questions qui me hantent. Mais en même temps, moi, je suis aussi pourri que ceux qui laissaient les gens avec l'étoile. Je vois bien les migrants. Hier, je leur ai donné un sandwich et 10 balles, parce que j'étais bien luné. Mais quand on voit cet campement de migrants qui a été filmé et mis sur des réseaux sociaux, les réactions des gens, mais qui retournent chez eux, on n'a pas besoin de ces coupeurs de tête, ces décapiteurs. Notre pays est scindé en deux, vraiment, entre ceux qui comprennent un peu cette situation et d'autres qui veulent mettre les murs et les barbelés. On ne peut pas aller dans cette direction. Il faut forcément aller vers la décroissance, vers le partage, vers notre humanité. On n'est plus entre 7 et 8 milliards. On ne peut pas aller dans cette direction de tuer l'autre et de le repousser. Mais je n'ai pas voulu ni défendre Céline avec ça. Moi, ce qui me plaisait, c'était avant tout le texte. La beauté du texte, alors bien sûr, c'est une beauté qui est très décriée, mais la force de ce texte, qui est en fait son cinquième pamphlet.
Ça vous a atteint, cette polémique autour
de... Oui, parce qu'elle était concomitante avec le décès de ma mère, avec des attaques des cathos antéchristes, et puis des islamiques aussi. Parce que j'avais fait, après les attentats de Charlie, un poème, en singeant le poème « Liberté » d'Éluard, mais très ordurier contre les terroristes. J'ai été attaqué, mais voilà, c'est venu en même temps.
Voici donc ce qu'écrivait ce petit bousier.
pendant que j'étais en prison,
en plein péril pour me pendre. Satanée petite, saloperie gavée de merde.
Tu rassembles de l'autre fesse
pour me salir au dehors. Anus,
Catus,
que cherches-tu?
Je crois savoir, Bernard Cavanagh, que pendant deux ans, pendant cette polémique autour de l'œuvre, vous n'avez pas beaucoup écrit de musique.
Non.
Est-ce que c'était la raison pour laquelle...
Il y a plusieurs raisons. À la fois, toute la jeune musique m'ouvre des portes, mais en même temps me disent que je suis ailleurs et que j'ai peut-être déjà trop écrit et que ça sert à rien d'en rajouter. Et il y avait aussi une chose que je voulais arrêter, c'était l'expressionnisme trop exacerbé. Je voulais passer de Bacon à Rothko. Voilà, c'est peut-être l'âge aussi. Notre phénomène, c'est la surdité, mais c'est pas uniquement une surdité qui est liée aux intensités. C'est que tous les aigus, je les entendais avec une distorsion. Moi, maintenant, grâce à mes superbes appareils, mais ça durait quand même pas mal d'années. Et voilà, donc, tout ça a fait que j'ai eu du mal à reprendre le travail. Mais je l'ai repris avec Scordatura, hein, qui est un concerto pour violon, mais avec un... Je m'adresse à un violon qui est à peu près comme mes oreilles, c'est-à-dire assez meurtri, comme si on l'avait oublié dans un grenier, qui est complètement désaccordé. Au lieu d'avoir sol, ré, la, mi, fait fa, do dièse, fa une tierce au-dessus et un demi-ton au-dessus, fa dièse. Et j'ai utilisé pour ce concerto quatre violons et accordés différemment, et toujours, bien sûr, pour Noémie Schindler.
La violoniste Noémie Schindler, les musiciens de l'orchestre de Picardie dirigé par Harry van Beck. Dans cet extrait de Scordatura, le deuxième concerto pour violon et orchestre de Bernard Cavanagh, créé en mars 2019 au théâtre de Gennevilliers. C'est Christine Amado qui réalise toute cette semaine ces grands entretiens de Bernard Cavanagh avec Claude Nyor, Sébastien Royer et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.